D'accord. La puissance d'écrit de l'adopter est le sous-thème que nous avons développé, que nous avons commencé à développer depuis un certain temps. C'est grandir et continuer à grandir malgré tout. Grandir et continuer à grandir malgré tout. Là-bas, je gère les minutes moi-même. J'ai 60 et 10 minutes de prière, au total 70. Mais ici, je suis autour des 50. Si vous me voyez basculer autour des 60, ne me tenez pas trop rigueur. Ce sont les habitudes qui ont commencé à bouger un tout petit peu. Grandir et continuer à grandir malgré tout. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 21 au verset 26. Et Luc chapitre 2, du verset 40 au verset 52. 1 Samuel 2, 21 à 26. Luc 2, 40 à 52. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous pouvez suivre la lecture sur les écrans. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses, car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions ?»« Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Luc chapitre 2, du verset 40 au verset 52. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant dont il est question ici n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux, pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Les versets 52, nous lisons tous ensemble. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Grandir et continuer à grandir malgré tout, malgré les circonstances, malgré les déviations, malgré les dérives dans notre société, malgré les comportements, ô Dieu, que nous voyons, Seigneur, chez les uns tout comme chez les autres, qui ne rassurent pas une vie, ô Dieu, morale, assez responsable. Mais malgré cela, ô Dieu, tu nous demandes de grandir et même de continuer à grandir. Qui parviendra sinon celui qui est entouré de ta grâce? Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de nous baigner dans cet océan de la grâce. Que cette grâce qui nous a pris en charge depuis le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, que cette même grâce nous aide à grandir, à évoluer avec toi, ô Dieu. Tu nous tiens la main ce matin et tu bénis ta parole. Qu'elle trouve le chemin de nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Nous voulons accueillir la parole de Dieu par des applaudissements. Accueillons-la avec joie, avec reconnaissance, avec cri de joie, avec célébration. La parole qui triomphe, la parole de vie, la parole qui nous relève. Jésus est merveilleux. et sa parole est merveilleuse. Amen. Partant de la problématique selon laquelle est-il possible qu'un enfant à peine sévré, puis déposé au milieu d'une famille rongée par l'immoralité, arrive malgré tout à grandir et continuer à grandir loin de ses parents? Nous avons répondu par l'affirmatif à cette question en disant que grandir et continuer à grandir est une exigence divine pour tout enfant de Dieu. Une exigence divine. Cette problématique nous a pris en charge depuis le début même de cette troisième marche de notre pyramide de maturation d'un adopté. Est-il possible qu'un enfant, à peine c'est vrai, parce que là il est question de Samuel, il est conduit au temple à Silo, dans la maison de l'Éternel, selon le vœu que sa mère avait fait à Dieu, que si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai, il sera tout à toi toute sa vie. Et là, elle a par le canal de son mari, elle a accompli son vœu, et l'enfant, autour de 4 ans, 5 ans, 6 ans, est déposé là, à Silo. Mais là où il est déposé, il trouve des gaillards, il trouve des fils d'Élie, qui sont dans une vie immorale très, très, très avancée. Et nous avons lu ce qu'ils étaient en train de faire. Non seulement qu'ils avaient fabriqué une fourchette à trois dents pour piquer la viande avant même que la part de l'Éternel ne soit offerte, et ils avaient déjà une fourchette à trois dents pour piquer la viande. Et non seulement qu'ils s'étaient livrés à ce genre de pratiques, mais ils couchaient aussi avec les femmes qui venaient là à Silo. Et c'est cet enfant, ce jeune homme, ce jeune enfant de 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui est déposé là. C'est pourquoi nous sommes partis de cette problématique pour dire, est-il possible qu'un enfant à peine, c'est vrai, autour de 4 ans, 5 ans, 6 ans, est-il possible qu'un enfant à peine, c'est vrai, puis déposé là, au milieu d'une famille rongée par l'immoralité, arrive à grandir, arrive malgré tout à grandir et continuer à grandir loin de ses parents. Nous avons dit que grandir et continuer à grandir était une exigence divine pour tout enfant de Dieu. Une exigence ne se négocie pas. Une exigence, elle revêt toujours un caractère obligatoire. Une exigence divine pour tout enfant de Dieu à travers, premièrement, la valeur d'une graine semée à Silo. Nous avons vu beaucoup de choses autour de ces points. Nous avons ensemble analysé avec vous la croissance de cette graine qui a été semée à Silo. Et comment elle a été enfouie dans le sol, mais elle devait supporter cette étape où l'on est caché pendant un temps. Supporter le poids de la terre, mais on finit toujours par sortir. Mais aussi, il faut pendant un certain moment apprendre à descendre avant de commencer à monter. Et après, il faut aussi savoir supporter les vents qui soufflent. Parce que celui qui observe les vents, finalement, ne s'aimera point. Cette exigence se passe également par grandir pour une grande utilité sociale que nous avons aussi vue. Que Dieu fait de nous cet arbre. Alors qu'au début, c'était une petite graine de sénévé que les oiseaux pouvaient manger, picoter à tout moment et en finir avec elle. Mais cette graine, aussitôt qu'elle devient un arbre, la Bible dit, elle devient la plus grande de toutes les légumes. Et c'est là que ce même arbre-là, qui était autrefois la nourriture des oiseaux, devient un lieu où les oiseaux peuvent venir trouver refuge. Les ennemis d'hier peuvent aujourd'hui être pris en charge par vous. C'est ça la maturité. Alléluia. Les deux premiers points ayant été analysés, entamons ce matin l'étude de notre troisième point relatif aux trois dimensions de la croissance d'un adopté. Les deux premiers points ayant été analysés, entamons ce matin l'analyse de notre troisième point relatif aux trois dimensions de la croissance d'un adopté. Les trois dimensions de la croissance d'un adopté. Le mot-clé ici, c'est la croissance. Dans ce titre, les trois dimensions de la croissance d'un adopté, le mot-clé que nous trouvons ici, c'est la croissance. Qu'est-ce qu'une croissance? Nous parlons de la croissance dans pratiquement tous les domaines de la vie. de l'homme, il y a la croissance physique de l'homme. Il naît enfant, il est un bébé et il fait des progrès et il grandit et aujourd'hui il devient un homme. Il y a la croissance démographique lorsque la population d'un pays, d'une cité, d'une région augmente en nombre. On parle de la croissance démographique. On parle aussi de la croissance économique. Lorsque tout ce qu'un pays regorge se transforme en richesse et que c'est là ça que se conduit, cela est conduit avec une très bonne distribution au niveau de la population. On peut parler de la croissance économique également d'une nation. Alors, par définition, notez, une croissance est une action de grandir. Une croissance est une action de grandir, de se développer ou de pousser. Une croissance est une action de grandir, de se développer ou de pousser. On peut grandir physiquement, comme l'avions dit tantôt, mais on peut aussi grandir spirituellement. Je change, on doit grandir physiquement et on doit aussi grandir spirituellement. Alléluia. On doit grandir spirituellement aussi. On doit se développer physiquement, mais on doit aussi se développer spirituellement. On doit pousser physiquement, mais on doit aussi pousser spirituellement. Alléluia. Notez ceci. Souvenons-nous de la phrase suivante, prononcée dans le cadre de cet enseignement. Souvenons-nous de la phrase suivante, prononcée dans le cadre de cet enseignement. Quelle est donc cette phrase? Notez, tout ce que Dieu fait commence petit mais finit grand. Tout ce que Dieu fait commence petit mais finit grand. Il n'y a rien que Dieu puisse commencer à faire dans la vie d'un homme qui commence petit et qui reste petit. Tout ce que Dieu fait commence petit mais finit grand. Et vous comprendrez que dans cette phrase, il y a là-dedans la pensée du processus. C'est pourquoi nous disons ainsi, la croissance, cette croissance que nous avons définie comme étant une action de grandir, une action de se développer ou de pousser, la croissance est donc un processus décidé par Dieu, auquel il soumet tous les êtres vivants. La croissance est donc un processus décidé par Dieu, auquel il soumet tous les êtres vivants. Vous ne pouvez pas planter un manguier aujourd'hui. Le matin, vous avez planté le manguier, et puis, à 15h, 16h, vous voilà devant le manguier pour dire, je suis venu cueillir les mangues. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Pourquoi? Parce que vous êtes venu avant la fin du processus de ces manguiers, pour arriver à l'étape de produire des mangues. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une femme qui a un bébé jeune fille, un bébé fille, et puis qui commence déjà à réfléchir sur son prochain mari, ou sur son futur mari. Il commence déjà à dire, Narobal, il ne savait pas un tel. Non, là, ça devient un souci. Elle est encore bébé. Donc, ça veut dire, on ne marie pas quelqu'un qui est à cet âge-là. On ne peut pas épouser quelqu'un qui a cet âge-là. Et s'il y a des tribus qui pointent déjà les enfants d'autrui à cet âge-là, arrêtez avec ça. C'est la sorcellerie. Un vieux papa, 40 ans, 50 ans, qui pointe déjà le tout nouveau-né. Elle n'a pas encore un jour. C'est ma femme. Ça, c'est la sorcellerie. Mais ça existe, non? Alors. Donc, il y a un processus à observer. Tout ce que Dieu fait commence petit, mais finit grand. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Pourquoi? Parce que cela répond justement à ces principes. Le faible commencement que vous voyez aujourd'hui ne sera pas toujours faible commencement. C'est un faible commencement aujourd'hui, mais dans un processus. Le processus amènera ce faible commencement à quelque chose de puissant, à quelque chose de grand. Alléluia. Si nous comprenons ces principes, si nous comprenons ces choses, mes frères, il n'y aurait pas des empoisonnements dans notre société. il n'y aurait pas de courbat dans notre monde. Il n'y aurait pas la jalousie à gauche et à droite. Si nous avions intériorisé la pensée du processus, parce que le processus, Dieu l'a voulu pour l'homme dans toute sa vie. Vous allez voir que toute la vie de l'homme obéit à un processus. Il n'y a pas de progrès dans la vie d'un homme sans processus. Dans tout ce que nous faisons, il y a un processus. Pour préparer une bonne nourriture, il y a un processus. Pour se marier, il y a un processus. Tout ça, il y a dans un processus. Mais nous sommes, c'est vrai, on dit que nous sommes dans un siècle de la vitesse. Mais nous ne sommes pas dans un siècle de la précipitation. La vitesse n'est pas égale à la précipitation. C'est là la confusion que nous avons. Alléluia. Donc si nous comprenons ces principes, il n'y aurait personne qui dira à l'autre ou à son leader que tu me freines, que tu me bloques. Parce que quand on intériorise la pensée du processus, on se dit, si je ne suis pas encore là, c'est que je suis en cours de processus. Donc je continue à poursuivre les processus. Écoutons cette parole pleine de sagesse du livre des Proverbes. Écoutons cette parole pleine de sagesse du livre des Proverbes. Et nous sommes dans Proverbes chapitre 13, le verset 11. Proverbes 13, le verset 11, la Bible dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Vous entendez? La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La nouvelle version français courant dit, la richesse trop vite acquise disparaît aussi vite. La richesse trop vite acquise disparaît vite. Celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Et la parole de vie dit, une richesse gagnée en peu de temps diminuera. Mais une richesse gagnée petit à petit augmentera. Apprenons frères et sœurs à rester dans les processus. Apprenons à aller petit à petit, à aller mollo mollo. Ne précipitons pas les choses. Dieu nous a soumis dans un processus dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé cette affaire que tu dois déjà commencer à brasser des millions. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as hérité de cette entreprise que tu dois voir tout aller comme sur des roulettes. Peut-être que tu as hérité quelque chose qui est devenu un canard boiteux. Il y a un processus de redressement de ce qui t'a été légué. Beaucoup de gens se sont fait du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu voir les résultats aussitôt arriver. Aussitôt démarrer. Aussitôt qu'on a lancé une activité. On veut voir les résultats directement. Dieu a soumis toutes choses dans un processus. Alléluia. Il a voulu assez que les choses évoluent dans un processus. C'est pourquoi ne sois pas rapide pour aller à autre chose. Malheureusement, dans notre pays, nous nous illustrons plus dans la précipitation. Vous êtes quelque part bloqué dans un bouchon. Vous êtes sur la file d'attente. Vous suivez l'allure des véhicules qui bougent. Et vous allez voir quelqu'un qui crée la deuxième bande. Et il sait que l'autre bande, c'est pour ceux qui descendent. Et puis vous arrivez quelque part là, bloqué. Tu es au volant, tu parles toi-même. Tu donnes des coups, tu te fâches au volant. Mais, et puis on te dit, ma vie très pesante, comment tu vas au Canada, on peut y aller. C'est là le problème. Parce que tout le monde est pressé, tout le monde veut arriver. Ça se répercute même dans nos cimetières. De la même manière que nous sommes désorganisés dans la société normale, des vivants, ça se voit même dans les cimetières. Nous enterrons aussi comme nous vivons ici. Tout le monde veut être sur la grande route. C'est là le problème. Et ceux qui vont enterrer les autres, ils marchent sur les autres tombes. Donc, on a un problème. Alléluia. Une richesse gagnée en peu de temps diminuera. Mais une richesse gagnée petit à petit augmentera. Ce n'est pas le jour où tu as commencé à travailler que tu dois commencer directement à acheter la maison. Ce n'est pas ce jour-là que tu dois avoir un véhicule. Ce n'est pas forcément ce jour-là que tu dois déjà commencer à aller en congé à Miami. Non! Ce n'est pas ce jour-là que tu dois commencer à aller à Bruxelles. Te voilà avec des selfies, tu publies à gauche et à droite. Il y a un processus. Respecte ce processus-là. Ce n'est pas le jour où tu commences les affaires, alors que tu as encore 10 clients, tu commences déjà à faire des insomnies parce que tu n'as pas encore atteint 100. C'est un processus. C'est pourquoi même quand nous parlons de redressement des entreprises, ne te compare pas à tes concurrents selon la taille de ce qu'ils ont réalisé comme profit et bénéfice. Pourquoi? Parce que chaque personne qui commence une entreprise, il se fixe un objectif. Qu'après telle période, j'avais 10 clients, mais à la fin de cette année, mon objectif c'est atteindre 15. Même si ton voisin a fait 1000 clients, toi tu as fait 15, félicite-toi. Tu es dans les bons. Parce que ça prouve que oui, ce que tu as commencé à faire est en train de réussir. Ça va aller graduellement, ça va aller progressivement. Amen. Notez ceci. Le Dieu Tout-Puissant avait tous les pouvoirs de nous envoyer son fils Jésus déjà à l'âge adulte. Oui ou non? Dieu est capable. Le Dieu Tout-Puissant avait tous les pouvoirs de nous envoyer son fils Jésus déjà à l'âge adulte. Il nous envoie Jésus déjà à 30 ans. Quelqu'un qui vient, il a déjà l'âge. Et puis, il sauve l'humanité. Et puis voilà, on tourne la page et puis nous continuons la vie. Le Dieu Tout-Puissant avait tous les pouvoirs de nous envoyer son fils Jésus déjà à l'âge adulte. Cependant, il a soumis au processus de croissance décidé pour tous les hommes afin d'être un modèle pour nous aujourd'hui. Il a soumis à ce processus de croissance décidé pour tous les hommes afin qu'il soit un modèle pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Vous voyez. Il pouvait bien nous l'envoyer déjà à l'âge adulte. Jésus vient à l'âge adulte. Et puis il sauve l'humanité. Mais Dieu s'est dit, dès lors que tu es entré dans le schéma des hommes, tu seras comme tous les hommes. La croissance, frères et sœurs, n'est pas l'affaire d'une catégorie de personnes. C'est pour tous les hommes. Dieu a tout soumis à ce processus de croissance. Je ne sais pas tu es dans quel secteur d'activité. Là où tu es là, obéis à ce processus. Va mollo mollo, va petit à petit. Alléluia. Notez, en guise d'introduction, considérons avant tout, ce matin, deux éléments importants et nécessaires du processus de croissance d'un adopté. En guise d'introduction, considérons avant tout ce matin, deux éléments importants et nécessaires du processus de croissance d'un adopté avant d'aborder les trois dimensions proprement dites de la croissance d'un adopté. Je disais qu'en guise d'introduction, considérons avant tout ce matin deux éléments importants et nécessaires du processus de croissance d'un adopté avant d'aborder les trois dimensions proprement dites de la croissance d'un adopté. Quels sont ces deux éléments important et nécessaire? Notez premièrement, il y a le temps du processus. Le temps, la période. Le temps du processus. Et deuxièmement, nous avons la soumission de l'adopté. Le temps du processus et la soumission de l'adopté. Nous verrons que le premier point, faute de temps. Le temps du processus. Notez ceci et c'est très important. L'exécution de tout processus dure un certain temps, avec un début et une fin. Oui ou non? L'exécution de tout processus, peu importe le domaine, mais l'exécution de tout processus dure un certain temps, avec un début et une fin. En d'autres termes, il n'y a pas de processus sans délai fixé. Nous sommes engagés dans notre pays actuellement dans ces processus électoraux. Mais ces processus électoraux n'est pas ouvert comme ça, sans début, sans fin. Ces processus sont accompagnés d'un calendrier. Ce calendrier qui nous détaille les différentes phases, les différentes activités qui interviendront au cours de ces processus. Il y a un début, il y a aussi une fin. Il y a aussi, dans certains endroits, dans certaines situations, il y a des processus, il y a les processus de fiançailles. Vous ne pouvez pas être fiancé à vie. Il n'y a pas de fiancé à vie. C'est-à-dire, vous avez commencé jeune. Vous vieillissez tout en étant toujours fiancé. Matam, ils ont l'emba, n'a qui fiancé. Ils ont tétou, kabambou, ils ont tétou, n'a qui fiancé. Ceux qui appellent mes obimans, n'a qui fiancé. On vous demande, quel est l'âge de vos fiancés? 25 ans. Ah! Voilà, t'as 4 ans. Là, il y a un problème. Hein? Soit vous êtes marié. Bon, on ne dira pas que celle-là, c'est la femme de nuit, l'autre là, c'est le mari de nuit. C'est qu'il y a un problème dans les processus. Donc, il y a les processus des fiancés, on sait qu'ils vont aller de telle période jusqu'à telle période. Il y a aussi les processus d'apprentissage d'un métier. Quelqu'un qui commence aujourd'hui un travail, il est soumis à un calendrier. On dira par exemple, ce processus c'est de 3 mois, de 6 mois, ou de 9 ou de 12 mois. Mais vous entendrez, alors que la personne n'est pas encore arrivée à la fin du processus, on commence déjà à l'appeler maître. Maître ceci, maître cela. Quand je vais au garage, tout le monde là-bas s'appelle maître. Mais finalement, vous tous ici, il n'y a que des maîtres. Donc le problème de notre pays, c'est ça. Pour vanter quelqu'un, pour flatter quelqu'un, on l'élève. Vous lui donnez un titre, le jour où vous voulez ravir ce titre-là, Aboyangu. Et Tikalakabongo. C'est là le problème au Congo. Donc, il y a ce genre de processus. Je disais, l'exécution de tout processus dure un certain temps, avec un début et une fin. Notez, c'est ce que nous confirme l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4, les versets 1er et les versets 2e. C'est ce que nous confirme l'apôtre Paul dans Galates 4, 1 et 2. L'exécution de tout processus dure un certain temps, avec un début et une fin. Et l'apôtre Paul nous le confirme ici. Lorsqu'il dit dans Galates 4, 1 et 2, il dit quoi? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. L'apôtre Paul est en train de nous décrire la vie d'un héritier. Parce que l'esprit que nous avons reçu est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais le même esprit aussi rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Non seulement que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Mais l'apôtre Paul fixe les choses ici. C'est vrai, vous êtes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, mais il dit aussi longtemps que cet héritier-là est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Pendant qu'il est encore enfant, il est sous la gestion des tuteurs, il est sous la gestion des administrateurs, jusqu'au temps marqué par les pères. Il y a toujours un temps marqué par les pères. C'est-à-dire, il n'y a pas de processus ouvert. Dieu a fixé un début et une fin par rapport à l'exécution de ce processus. C'est pourquoi nous avons dit, l'exécution de tout processus dure un certain temps, avec un début et une fin. Et le mot dans lequel est concentré tous les processus ici, c'est le mot jusqu'à. Ça fixe les délais, ça fixe un temps, jusqu'au temps marqué par les pères. Et lorsque nous cherchons à comprendre ce que veut dire jusqu'à, le dictionnaire dit jusqu'à marque un certain point qu'on atteint. Un certain point qu'on atteint et au-delà duquel on ne passe pas. C'est-à-dire, le père a fixé l'âge. Il a dit, cet enfant, c'est lui l'héritier. Tout ce bien que j'ai, c'est pour lui. Mais il commencera à en jouir quand il atteindra tel âge. Dès lors que l'enfant atteint cet âge, il doit accéder à ces biens-là. Alléluia. C'est pourquoi, notez cette phrase, d'après l'apôtre Paul, l'héritier qui est encore un enfant est dans un processus. Vous voyez? L'héritier qui est encore un enfant est dans un processus dont le temps est déjà fixé par son père. D'après l'apôtre Paul, l'héritier qui a encore un enfant est dans un processus dont le temps est fixé par son père, à l'issue duquel les statuts Et la condition de cet enfant doit obligatoirement changer. Je dis bien obligatoirement changer. Pourquoi? Parce que la décision de changer les statuts vient du père. Mais il a fait partant d'un processus, du temps qu'il a fixé dans un processus. En d'autres termes ici, ce que Dieu a décidé pour ta vie a un délai qui court. C'est-à-dire ces choses-là, si tu les cherches aujourd'hui, tu ne les auras pas. Jusqu'à ce que tu atteignes ce point. Parce qu'il a dit jusqu'à marque un point qu'on atteint et au-delà duquel on ne passe pas. Il y a un temps que le Père a décidé pour t'amener à autre chose. Il y a un temps que le Père a décidé pour déclencher certaines choses de ta destinée. Ces choses-là, tu ne les auras pas avant le temps, mais tu les auras dans le temps de Dieu. C'est pourquoi, je vais dire ceci, ce que le Père a décidé pour toi, notez ceci, ce que le Père a décidé pour toi est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est déjà une parole. Le Père a dit, c'est mon héritier. Voici ce que je vais lui léguer. Mais il possédera ces choses quand il atteindra 18 ans. C'est à 18 ans finalement que je vais déclencher les mécanismes. Mais je vais ici dire qu'il peut arriver que pendant le processus, il y a un blocage quelque part. Cela se compare un peu avec la chaîne de valeur de la fabrication des boissons. Quand vous allez dans des brasseries, vous allez voir que la fabrication de la boisson est soumise à une chaîne de valeur, un processus. Ça commence par nettoyer les bouteilles et après ces bouteilles sont rangées en ligne pour suivre un certain circuit. Et puis ça arrive quelque part, on met la boisson et puis après cette étape, on met les bouchons. Et puis après l'étape des bouchons, on met l'étiquetage. Et puis après l'étape d'étiquetage, peut-être on peut empaqueter, on peut mettre dans des sachets ou bien les déposer dans des casiers. Mais chaque étape de ce processus est soumise à un timing. Il y a une période fixée pour chaque étape. Cette période ne peut pas être au-delà de ce qui a été fixé au début. C'est-à-dire, si pour laver les bouteilles, le processus avait prévu 2 minutes, si cette étape prend 5 minutes, il y a quoi? Anomalie dans le système. Et il faut quoi? Que l'ingénieur vienne pour débloquer les choses. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu devais déjà arriver au fond, à la fin du processus. Tu devais déjà aller à une autre étape de ta vie. Mais tu sens comme si ta vie est coincée quelque part. Il y a un défaut dans le système. Il y a un problème, il y a une anomalie dans les mécanismes que Dieu seul descendra pour débloquer cette situation. Je prie ce matin que ce qui t'a retenu là pendant longtemps saute, fasse sauter le verrou ce matin au nom de Jésus. Cette maladie qui t'a maintenu captif, ce chômage qui t'a maintenu dans la pauvreté, tu devais déjà aller plus loin. Ce travail-là qui t'a maintenu dans ce grade-là, année après année, j'ai pris ce matin que le verrou saute, que le mécanicien, l'ingénieur par excellence, qu'il descende ce matin, qu'il retouche un peu le système, qu'il retouche un peu les mécanismes et qu'il te laisse poursuivre ton chemin. Pourquoi tu dois rester là pendant longtemps, année après année? Il y a des mécanismes qui doivent sauter cette année. Pour ton repos, Dieu descendra. Pour te donner ce repos-là, il y a des mécanismes qui ont été, c'est pas perturbé par l'ennemi. Dieu descend lui-même pour dire non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a un souci quelque part. Il vient avec son tournevis, il fait un peu tourner la vis, et puis la chaîne de valeur continue son circuit normal. Ta chaîne de valeur ne sera pas interrompue. Ça ne sera pas arrêté cette année. Tu n'attendras pas forcément arriver à la fin de cette année pour que l'ingénieur vienne aujourd'hui même. Dès lors qu'il a constaté l'anomalie, il vient pour refixer les choses. Que Dieu refixe les choses dans ta vie. Que Dieu refixe tout ce qui est bloqué, tout ce qui a connu du retard. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est vrai, le processus, oui, mais le processus a un temps fixé. Je ne peux pas attendre au-delà du temps prévu. Si c'est 3 minutes, c'est 3 minutes. Je ne peux pas continuer à rester là, à croupir là. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème que Dieu seul doit régler. Il doit répondre à ces problèmes-là. Alléluia. Le Père a fixé cette promesse, cette prophétie. Il a fixé le temps pour que cette prophétie s'accomplisse dans le temps. C'est pourquoi la Bible dit, elle marche vers son terme, c'est-à-dire vers la fin du processus. Et elle ne mentira pas. Parce que Dieu ne trompe pas. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. C'est-à-dire, le retard là, c'est qu'il y a eu une anomalie dans le système. C'est-à-dire, l'engrenage a connu un petit souci. Là où ça devait passer librement, ça connaît un petit blocage. C'est pourquoi Dieu dit ici, toi, regarde seulement au temps que j'ai fixé pour toi et à la prophétie que j'ai donnée. La réparation n'est pas ton affaire. Le déblocage de la situation n'est pas ton problème. Pour que tu avances, ce n'est pas toi. Toi, attends. Il te dit, attends, attends, attends. Reste là. Je vais débloquer les choses. Alléluia. Voilà pourquoi Salomon dit dans Ecclésiaste 3, du premier verset au huitième verset, nous n'allons pas tout lire. Mais il dit ceci au premier verset, il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Or, c'est nous les hommes qui sommes sous les cieux. Vrai ou faux? C'est pourquoi Dieu dit ici par Salomon, il y a un temps pour ceux qui sont sous les cieux. C'est-à-dire, il y a un processus pour tous ceux qui sont sous les cieux. Il y a un temps, frère, où tu dois être sous la gestion des titulaires. Il y a un temps où tu dois être sous la gestion des administrateurs. Mais ça ne sera pas toujours le même temps. Il y a un temps où le titulaire doit faire la remise et reprise. Oh, tu n'as pas compris. Il y a un temps où l'administrateur doit dire, j'ai beaucoup géré, mais là, ton père a décidé que je te donne tout ce qui te revient de droit. Que Dieu te donne tout ce qui te revient de droit. Que cette prime-là qui te revient de droit, que cette année Fungwama, que tu la reçoives. Que ce salaire-là qui est bloqué, qui est resté figé, année après année. Que Dieu le débloque cette année. Que ces affaires-là qui sont bloquées, que cela fasse remise et reprise. Que tu accèdes à ce qui est à toi. Il y a un temps pour être sous la gestion des administrateurs et des titulaires. Il y a aussi un temps où tu es véritablement le maître de tout. Un temps où c'est toi qui prends la décision. Un temps où c'est toi qui orientes toutes choses. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais Daniel vient. Daniel dit, attention. Il y a un temps. Oui, c'est vrai. Mais Daniel vient dans Daniel 2, le verset 20 et le verset 21. Il dit, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Il dit quoi ensuite? C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il y a un temps, c'est vrai, sous les cieux pour tous ceux qui habitent, qui sont sous les cieux, mais ce temps-là a son changeur. C'est-à-dire, il y a un Dieu au ciel qui décide du changement des temps. En d'autres termes, dans le processus de Dieu, il peut arriver, alors qu'il t'avait promis la fin du processus à 18 heures. Mais il revient pour te dire, ce que je pensais te donner à 18 heures, il y a un basico besoin. Il ramène le temps à 15 heures. C'est-à-dire, c'est celui le Père qui a le plein droit de changer son temps. Ma prière ce matin que Dieu change le temps. Tu as beaucoup attendu, tu as beaucoup patienté, tu as beaucoup attendu, tu as beaucoup attendu que Dieu ramène le temps à 16 heures. Tu n'es pas obligé d'attendre à 18 heures ou à 20 heures que Dieu change son temps. Il arrive que quelqu'un t'a promis quelque chose. Il t'a promis un petit rien. Et puis il te dit, bon mon ami, tu viens à 18 heures. Tu vas, je vais te donner ce dont tu m'as demandé là. Et puis, vers 13 heures, il t'appelle, il te dit, non, je pense qu'à 18 heures là, ça sera tard parce que j'ai une course urgente et je dois aller à Kinshasa. Viens à 15 heures. Comme ça, je vais te donner la même enveloppe. C'est pas qu'il va te promettre encore ton retour Nangai. Ce n'est pas au retour. Ça veut dire que le Père qui fixe le temps a le pouvoir de modifier son temps. Il a le pouvoir de changer son temps. C'est-à-dire dans le processus, sois tranquille. Quand tu es dans le processus, sois calme. Le temps n'est pas ton affaire. Le temps est l'affaire de Dieu. Il peut le modifier comme il veut. Il a le droit de veto sur son temps. Personne ne lui posera la question, pourquoi tu as changé le temps? Pourquoi tu l'as béni avant le temps? C'est pourquoi, frères et sœurs, vous serez étonnés de voir que beaucoup n'attendront pas le mois de décembre pour entrer dans leur repos en 2023. Avant la fin de cette journée, quelque chose peut se passer. Avant la fin de ce mois, quelque chose peut se passer dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'attendre toujours le mois de décembre. Tu n'es pas obligé d'attendre le 31 décembre. Il a le pouvoir de dire au mois de juin, je vais lui donner ce mariage-là. Au mois de février, devant ta face, il aura ce jumeau-là. Elle aura ce jumel-là. Au mois de mars, au mois d'avril, je vais lui donner ce poste-là qu'il a toujours tant espéré. Qu'il change ton temps ce matin. Que Dieu change ton temps, le temps de ta vie, qu'il les change, qu'il les modifie. Qu'il les modifie dans ta vie. Alléluia. C'est ton père, comme c'est ton père qui a fixé le temps du processus de la guérison, de la maternité, de ta visitation, c'est aussi lui qui a le pouvoir de changer son temps. C'est lui seul qui a le pouvoir de changer ses temps. Notez, ne te compare pas à celui ou celle qui se réjouit aujourd'hui. Ne te compare pas à celui ou celle qui se réjouit aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas le même temps du processus de visitation. Vous n'avez peut-être pas le même temps du processus de visitation. Tel que nous sommes là, nous pouvons avoir les mêmes besoins, les mêmes problèmes. Mais Dieu ne nous a pas tous soumis à un même processus. Il y a des gens qui sont dans le processus d'Agar. C'est-à-dire, aussitôt aller avec Abraham, elle est grosse. Mais il y en a d'autres qui sont dans le processus de Sarah. Le processus de 25 ans qui va se terminer par cette phrase. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Car au temps fixé, Sarah aura un fils. Je reviendrai l'année prochaine. Et Sarah aura un fils. Il y a des gens, quand j'ai dit ça, je me suis dit, Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant? C'est-à-dire, ce n'est pas que, les 25 ans qu'elle a accompli, ce n'est pas que j'étais incapable de lui donner cet enfant-là. Mais c'est moi qui décide du processus. C'est moi qui décide du processus. J'ai décidé que elle, son processus, c'est combien? C'est 25 ans. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. À l'une, j'ai dit une année, deux ans, trois ans. À l'autre, il dit, soit c'est 25. Avant le 25, ok, mangengenge, rien. Bon, rien. Puis combien? Rien. Tu te poses même des questions, il dit, souma ou benin? Processus. En anglais, on dit process, processus. Reste dans le process, reste là, reste là. Pourquoi? Parce que trop souvent, de longs processus de visitation de Dieu cachent de grandes destinées. De longs processus de Dieu cachent de grandes destinées. Je vais dire à un homme, tu n'es pas dans ce processus-là pour rien. Dieu ne t'a pas soumis dans ce processus parce qu'il ne t'aime pas. Non! C'est parce qu'il veut donner une grande destinée à ta vie partant de ce qui arrive là. Alors, reste dans ce processus-là. C'est pourquoi il dit, si ça tarde, fais quoi? Attends-la. Ton processus n'est pas le processus de l'autre. Pourquoi lui, il est allé vite et moi, je suis encore là? C'est une affaire de processus. Alléluia. Terminons par ce dernier aspect. Écoutez, le Seigneur Jésus, notre modèle, nous apprend ceci. Le Seigneur Jésus, notre modèle, nous apprend ceci. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Notez, étonner les docteurs de la loi par son intelligence. Étonner les docteurs de la loi par son intelligence. Et ses réponses à 12 ans ne nous dispensent pas des 18 ans qui nous restent pour commencer le ministère. Nous avons lu ensemble avec vous, à 12 ans, alors qu'il est allé à Jérusalem avec ses parents pour la célébration de la fête des Pâques. Et puis, après la fête, toute la famille a pris le chemin de retour. Et après 3 jours de marche, Marie va constater que Jésus n'était pas avec eux. L'enfant Jésus n'était pas avec eux. C'est là qu'ils vont commencer à chercher auprès de tous les compagnons de voyage et des parents et proches et tout. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils étaient obligés de rebrousser chemin. Ils sont rentrés jusqu'à Jérusalem, 3 jours encore. Et là, ils arrivent à Jérusalem, ils commencent à chercher à gauche et à droite. Mais ils trouvent Jésus où? Dans le temple. Comment? Entouré des docteurs de la loi. Ces grands savants juifs, ces grands rabbins juifs, ces grands connaisseurs de la loi de Moïse. Jésus est là au milieu d'eux. Entouré de toutes ces grandes personnalités du pays, du monde religieux d'Israël. Et la Bible dit que Marie arrive avec Joseph et il constate que Jésus est en train de donner tous ces gens-là. Par ses réponses, par ses actes et tout ce qu'il fait. Il n'est pas toutes ces personnes-là. Mais ici, Jésus nous apprend que malgré ce qu'il a été devant ces docteurs de la loi, Jésus n'était pas encore arrivé à la fin du processus. Il pouvait étonner les docteurs de la loi. Il pouvait faire de grandes choses. Si c'était dans notre monde aujourd'hui, vous entendrez « Jesus Ministries ». Pourquoi? Parce qu'il avait tous les arguments possibles de commencer. Il étonne déjà les docteurs de la loi, ce sont eux la sommité de la vie religieuse dans les pays. Mais il les étonne. C'est que Jésus est supérieur. Jésus est grand. Mais Jésus dit, ce n'est pas à 12 ans que Dieu avait prévu la fin du processus. La fin du processus, c'est à 30 ans. C'est à 30 ans que je vais commencer le ministère. J'ai encore 18 ans à parcourir. Je peux être sage. Je peux être intelligent. Je peux étonner les gens autour de moi. Mais cela ne me dispense pas des 18 ans qui sont devant moi. Tu peux connaître beaucoup de choses. Tu peux connaître mieux que ton chef. Tu peux connaître mieux que ton supérieur au travail. Mais ce n'est pas pour autant que tu ailles à gauche et à droite négocier sa place. Ne te dis pas, oui, parce que je sais faire ce qu'il fait, voilà pourquoi je mérite sa place. Non! Reste dans le processus. Reste là. Ce n'est pas parce que tu étonnes déjà par une exhortation. Ce n'est pas parce que tu fais déjà ceci ou cela que tu dois déjà commencer à aller à gauche et à droite. Ce n'est pas pour autant que tu sois à gauche et à droite. Tu organises des campagnes d'évangélisation à Picambien. Il devait attendre 18 ans encore pour commencer le ministère public. C'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Le processus est appelé à être respecté. Notez cette phrase. Attention, attention, les exploits qu'on peut réaliser au cours du processus de croissance ne raccourcissent pas le temps fixé par le Père. Je peux faire des exploits, mais cela ne raccourcit pas le temps fixé par le Père. Notez, pour Samuel, entendre Dieu nous parler. Pour Samuel, entendre Dieu nous parler et recevoir des visions que même notre père spirituel ne reçoit plus, ne traduisent pas la fin du processus de croissance d'un adopté. Nous sommes dans 1 Samuel 3, du verset 15 au verset 19. Samuel, déjà au premier verset, la Bible dit, alors que la parole de l'Éternel était rare en Israël et les visions étaient peu fréquentes, la Bible dit, Dieu va appeler Samuel. Et Samuel, n'ayant jamais entendu Dieu lui parler, il avait des difficultés pour discerner que c'était la voix de Dieu. Et il court voir son père, Élie, pour lui demander, « Mon père, tu m'as appelé. » Élie réplique, « Non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. » Samuel a fait ce tour 3 fois. À la 3e fois, Élie va comprendre que c'était Dieu qui était en train d'appeler l'enfant. Et pourtant, c'est lui le souverain sacrificateur. Il n'entend plus Dieu. Dieu ne lui parle plus, mais Dieu parle à un jeune enfant, à un jeune homme qui est là. Et mais c'est le Père qui donne la clé pour entendre Dieu. Le Père dit, si la voix là parle encore, voilà comment tu vas répondre. Dis, Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Et il a fait ça. Dieu a parlé. Il lui a donné la vision, il lui a donné une parole contre Élie le sacrificateur. Et le matin, il se réveille. Samuel a la parole, la sentence de Dieu contre Élie. Et Élie a le cœur qui bat. Il s'est passé que Dieu a dit à l'enfant. Et puis il se retrouve quelque part. Élie dit à l'enfant, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Ne me cache rien. Et puis le jeune enfant dit en tremblant, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit. Et Samuel répond par, Élie répond en disant, c'est l'Éternel qui le fasse ce qui lui semblera bon. Mais le verset 19 nous dit quelque chose de très important. Malgré cette vision, la Bible dit, Samuel grandissait. Ça m'a bouleversé. Il a la vision que son père n'avait pas, mais il n'a pas cessé de grandir. Ce n'est pas parce que tu as une vision, tu es là, tu vois les anges monter et descendre comme Jacob à Bethel, et que ton père assis là ne voit rien, cela ne te dispense pas du processus. Reste dans le processus. La vision que tu as a besoin d'être encadrée par le père. Pourquoi? Le père qui est sur la terre travaille en étroite collaboration avec le père qui est là-haut pour déterminer le temps du processus. David est envoyé par Isaïe pour aller déposer la nourriture à ses frères qui sont au front. Il obéit à Isaïe, son père physique. Mais quand il arrive dans le camp, il a été pris en charge par les pères spirituels. Parce que c'était la fin du processus et il devait aller à autre chose. Quand il arrive là, il rencontre Goliath. Et c'est là, en battant Goliath, David n'est plus rentré à la maison pour faire le rapport. Comme Isaïe le lui avait demandé. C'était un départ sans retour. J'ai pris ce matin que tu arrives à la fin du processus. Et que ça soit un aller sans retour. Que tu t'envoles, que tu montes. Que tu ailles de l'avant. Mais tout en restant dans les processus que le Père a fixés. Alléluia. Il ne nous appartient pas de mettre fin à notre processus de croissance par les exploits que nous pouvons réaliser. Avant le temps n'est pas le temps. Attendons le temps décidé par le Père. L'enfant prodigue avait délibérément interrompu son processus de croissance et avait fini dans les mangeoires des pourceaux. Les dégâts que nous voyons aujourd'hui dans le monde des églises, les dégâts que nous voyons aujourd'hui dans notre société à tous les niveaux, c'est lié au fait que quelque part, il y a eu un souci de processus. Quand un processus est interrompu, ça entraîne des conséquences de croissance. Un processus de croissance qui est interrompu, ça s'entraîne des conséquences. C'est pourquoi au premier culte, nous avons dit qu'un enfant qui grandissait bien, mais au bout d'un certain temps, il y a des perturbations. Vous allez voir, sa croissance a des soucis. Le ventre gonfle. Et puis, ce qui est teli, et comme il moko. Et puis, quand il tousse, ce n'est plus la toux normale. C'est la solution. A qui n'a téléma. Bah, vous pouvez essayer poto, bah, sangisaga, na soya, na bimpiatu, na loso, na nyosoa. Beaucoup de gens ici ont besoin de ce genre de bouillie. Beaucoup de gens ici ont besoin de ce genre de bouillie. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont eux-mêmes interrompu le processus. L'enfant prodigue était avec son frère dans la maison de leur père. Mais avant le processus, avant le temps, la fin du processus, il demande à son père, donne-moi mes biens. Je vais aller faire ma vie. Mais il oublie qu'il est encore un enfant. L'enfant qui va parce qu'il est enfant, il fait quoi? Il dilapide tout ce qu'il a. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un faire la folie avec l'argent, c'est un enfant. Quand vous voyez un homme vraiment avec de l'âge, mais il fait la folie avec l'argent, quand il arrive quelque part à Panzilia Sabouaki, c'est encore un enfant. Ce sont les enfants qui peuvent entrer dans la maison, dans la chambre, il prend des liasses, et puis il vient, il donne même au policier. Voilà, ça c'est pour vous. Ce sont des enfants. Mais un homme a dit, tu sais, ici là, je cherche de l'argent. Par exemple, moi au centre-ville, je leur ai dit, je rêve. Je cherche 1 million. Et bien, je vais en avoir comme ça, ils ont 5 millions. Des dollars, pas des francs, hein, des dollars. Parce qu'il faut construire quelque chose digne du centre-ville. Quand vous voyez un homme jouer avec ce qu'il a, jouer avec le potentiel que Dieu lui a donné, jouer avec sa vie, il est encore un bébé, il est encore un enfant, il faut qu'il ait un tellement spirituel. Il doit aller dans ce centre là où on traite les kwashiorkor et tout ça, tout ça. Il y a un problème de croissance. Alléluia. Il y a un problème de croissance. Il faut que tu prennes cette bouillie là. On va te le faire consommer dans ma case. Terminons par ce texte d'Ecclésiaste 10, le verset 16. Ecclésiaste 10, le verset 16. J'aimerais que l'on affiche, l'on nous affiche les textes et qu'on les lise, nous tous. Ecclésiaste 10, le verset 16, la technique. Ne dormez pas. La technique. Oh là là. Il est dit quoi, si vous avez vos Bibles avec vous? Il est dit: malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Quand vous prenez le pays, prenez ça sous toutes les formes, que ce soit la famille, que ce soit l'entreprise. Dès lors qu'une famille a à sa tête un enfant, c'est un malheur. Dieu ne veut pas que nous restions des enfants. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous ne pouvez pas être la reine d'une maison et vous battre chaque jour avec votre mari, en longueur de journée. Le roi ne se bat pas, le roi donne des ordres, il fixe les choses et tout ça, tout marche. Vous comprenez ça? Donc nous avons besoin de cette maturité. Y a-t-il quelqu'un qui veut grandir avec nous ce matin? Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous, je ne sais pas. Votre processus peut-être a été interrompu par une situation, par quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Vous sentez que vous n'avancez plus. Vous sentez que vous êtes, c'est vrai, dans la chaîne des valeurs, mais le processus a connu des anomalies. Vous pouvez prier ce matin et dire à Dieu: déclenche les mécanismes, que je continue à avancer. Peut-être que vous êtes là ce matin, vous vous dites: j'ai interrompu le processus. Le processus que Dieu, auquel Dieu m'avait soumis. Mais ce matin, vous pouvez reprendre ce processus. Parce qu'il y a des troubles de croissance dans votre vie. Ne soyez pas pressés. Élevons nos voix, parlons au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Dis-lui: Seigneur, je vais rester dans le processus. Tu m'as placé dans une église, auprès d'un père, dans une famille, pour que je me nourrisse de la parole et que je grandisse avec ce qui est enseigné. Alors, Seigneur, je ne voudrais pas interrompre les processus. Je ne voudrais pas interrompre les processus, oh mon Dieu. Je t'en supplie. Je ne voudrais pas vivre des troubles de croissance à cause de la précipitation. C'est vrai, je vais atteindre ce niveau-là. Mais il faut aller pas à pas. Je dois aller petit à petit. Celui qui reçoit des richesses petit à petit, celui-là verra cette richesse augmenter. Pourquoi es-tu pressé? Pourquoi es-tu rapide pour vivre automatiquement le changement? Et tu es là ce matin, tu te dis: mon processus, je sens comme si le processus s'est interrompu. Là où je suis, ce n'est pas là où je devais être. Seigneur, bouge les choses. Que Dieu bouge les mécanismes. Que Dieu débloque les choses dans ta vie. Que Dieu débloque tout ce qui est fermé, tout ce qui a rouillé, tout ce qui ne marche plus comme il se devait. Que les mécanismes sortent ce matin. Que Dieu fasse sauter les verrous. Peut-être que quelqu'un a placé un bâton. Peut-être que quelqu'un a desserré une vis quelque part. Que Dieu débloque la situation. Et que tu continues, tu poursuives ton voyage. Que tu poursuives ton processus tel que Dieu l'avait décidé. Oh Jésus, merci.